C'était Dust Switch par Square Pusher.
Et l'envie de lire des petites nouvelles venues d'Ariège qu'on trouve dans la Gazette des Confinés pour faire suite à l'annonce très rapide qui avait été faite il y a quelques jours. Donc là, je vais vous lire ce petit article. Ça s'appelle « Drame dans le Serronnais ». L'annulation par la préfecture du marché de la Bastide de Cérou ce jeudi 16 avril n'est pas passée inaperçue, tant dans les médias locaux que sur la boîte mail de la Gazette. Nous ne voulions pas consacrer ce numéro qu'à cette thématique car il nous semble tout autant important de relayer d'autres considérations que la sauvegarde du confort d'aller au marché. Néanmoins, à retenir des paroles, nous avons choisi celle des musiciennes présentes au marché. Et toi, t'en penses quoi ? Marché de la Bastide de Cérou, jeudi 9 avril, 11h45. Après avoir fait nos courses, nous avons pris avec deux amis l'initiative d'égayer la fin du marché par le biais de quelques notes de musique en jouant à plusieurs mètres de la file d'attente du vendeur de fruits à l'extérieur du marché. La musique a fait naître des sourires sur les visages, des applaudissements, la sensation de joie visible puisque nous sommes privés d'activités culturelles et collectives depuis un mois déjà. Pourtant, ce fut qu'éphémère, puisqu'au milieu du quatrième morceau débarquent les gendarmes. Pourquoi ? Une personne a trouvé nécessaire de les prévenir car nous représentions apparemment un potentiel danger. On nous ordonne alors d'arrêter et on ne bronche pas. On ne veut pas créer d'histoire. Même les deux personnes qui géraient le marché, dont la platière, membre de la mairie, n'ont pas trouvé à redire sur notre initiative puisque nous respections ces fameux gestes barrières et ont précisé aux flics qu'ils faisaient attention à nos actes et qu'on ne faisait rien de mal. Évidemment, nous ne prévoyons pas de revenir sur ce marché pour recommencer. N'empêche que l'information est remontée à la préfecture et il a été décidé que le marché serait annulé au moins le jeudi d'après, jeudi prochain, sous prétexte de cet incident. Certaines nous traitent d'irresponsables, mais où est passé notre bon sens commun ? Notre seul but était de donner un peu de chaleur, d'alléger l'espace d'un instant le lourd fardeau de ce confinement, aider à patienter dans la file lointaine avec un peu d'amour par le biais de nos instruments. Et on était loin d'imaginer qu'il pouvait ainsi punir toutes celles et ceux qui s'approvisionnent au marché ainsi que les producteurs et productrices. Nous sommes profondément révoltés de cette décision et surtout que ce prétexte soit utilisé comme en étant la raison. Encore un moyen de nous diviser tous et toutes, les uns les unes contre les autres. De plus, il se trouverait que la placière qui a parlé aux flics va être sanctionnée. Je crois qu'on peut faire attention aux risques liés à ce foutu virus, garder des distances et rester pour autant sensé dans notre humanité. Si vous aussi partagez ce sentiment de révolte et ce besoin de convivialité, aujourd'hui on vous propose une chose. Dans les marchés qui restent, les supermarchés, dans les rues, même chez vous d'ailleurs, tous et toutes, pour nous-mêmes et les autres, pour sentir la collectivité qui reste soudée, chantons. Oui, chantons ensemble pour supporter cette distance physique qui nous est imposée. Chantons des chansons juste pour le plaisir de sentir l'émulsion de la collectivité qui résiste à ces interdictions absurdes et aberrantes, pour dire au moins qu'on ne se laissera pas faire, pour se donner du courage. Chantons pour supporter l'attente des unes derrière les autres, juste pour se sentir vivre, se sentir ensemble. Osons, c'est le meilleur moment pour surpasser ses peurs. Résister, c'est créer, résister, c'est chanter. Vous pouvez partager, donc voilà la proposition, vous pouvez partager vos propositions sur cette liste de diffusion, chanter@framalis.org, incluant la musique et les paroles, voire les accords pour ceux qui oseront sortir leurs instruments pendant qu'ils patientent dans la file d'attente. Et la proposition, l'appel dit aussi, vous pouvez aussi dire à quel marché vous comptez venir les chanter. N'hésitez pas à diffuser l'information au-delà des frontières ariégeoises. Résistons, chantons. Voilà, je trouvais sympa de relayer ce petit appel. Dust des EX.
Quand je te regarde, je ne te vois pas tel que tu es immédiatement. Pourquoi? Parce que la lumière de ton image, elle est venue jusqu'à moi. Elle a mis très peu de temps, 1/1 millième de seconde. Donc, je te vois tel que tu étais il y a 1/1 millième de seconde. Donc, tout ce que l'on voit, simplement parce que pour voir, il faut que la lumière nous atteigne et que la lumière met du temps à nous atteindre, nous connaissons sa vitesse, 300 000 km par seconde, nécessairement, on ne peut pas voir l'instantané. On ne peut voir que des choses qui sont dans un passé peut-être très proche. Il y a 1/1 millième de seconde, tu n'étais sans doute pas très différente de ce que tu es maintenant. Mais si on regarde des objets plus lointains, par exemple, quand on regarde le soleil, eh bien, ça met 8 minutes à la lumière pour venir du soleil. De sorte que quand le soleil disparaît à l'horizon, quand on voit son dernier croissant, eh bien, il est déjà couché depuis 8 minutes. Et quand on regarde la lune, on la voit telle qu'elle était il y a 1 seconde. Ça met 1 seconde pour venir de la lune. Mais quand on regarde la galaxie d'Andromède, bien visible à l'œil nu, près de Cassiopée en été, C'est 2,5 millions d'années. On la voit telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Et puis les galaxies les plus lointaines, c'est des milliards d'années. Certaines sont à 10 milliards d'années-lumière. Alors, on peut dire, oui, mais est-ce qu'elles existent encore? Eh bien, on n'en sait rien. Alors, donc, je suis Hubert Reeves. De métier, je suis astrophysicien. Je suis toujours beaucoup intéressé aux aspects de l'astrophysique qui touchent à l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est par exemple l'origine de l'univers, évidemment, l'origine du système solaire, l'origine de la Terre, tout ce qui raconte un peu ce qu'il y a eu dans le passé. J'avais commencé ma thèse de doctorat, c'était l'origine des éléments chimiques. D'où vient le carbone, d'où vient l'oxygène, etc. Donc c'est ça qui me passionne dans l'astrophysique. C'est de remonter le passé. Une des plus grandes découvertes de la science du XXe siècle, on savait que nous sommes faits d'atomes, de molécules, de carbone, d'azote, d'oxygène, mais on n'avait pas l'idée comment ces éléments sont-ils apparus dans l'univers. Ce qu'on savait déjà depuis 1925 et la théorie du Big Bang, c'est que l'univers n'a pas toujours existé, donc que les atomes n'ont pas toujours existé, mais on se demandait d'où ça vient. Et puis ce que le développement de la physique nucléaire au XXe siècle nous a montré, c'est que c'est grâce aux étoiles, parce qu'à l'intérieur des étoiles, il fait très chaud.
Oui.
Dans le soleil, il fait 15 millions de degrés.
C'est énorme.
Et quand il fait chaud, il y a des réactions nucléaires. C'est ce qui se passe aussi. C'est la même énergie qu'on utilise pour les réacteurs nucléaires et pour l'électricité. Mais c'est l'énergie des étoiles, c'est de l'énergie nucléaire qui vient du fait qu'au centre des étoiles, il fait très chaud. Et quand il fait chaud, il y a des réactions nucléaires. Et que ces réactions nucléaires font deux choses bénéfiques. D'abord, elles font de l'énergie. C'est pour ça qu'on a chaud sur la Terre et qu'on peut vivre. Mais le deuxième élément qu'on ne connaissait pas au début du 20e siècle, c'est que ça produit aussi des atomes. C'est comme une immense usine, une étoile, c'est comme une immense usine qui produit de nouveaux atomes qui sont comme la moisson de l'étoile quand elle est à la fin de sa vie et qu'elle rejette dans l'espace toute sa moisson d'atomes. Donc c'est en ce sens-là que les étoiles sont les éléments, les lieux où se sont formés les atomes et que comme nous sommes faits d'atomes, notre corps est fait de carbone, d'azote, d'oxygène et de tous les atomes de la table de Mendeleïev, eh bien on peut dire véritablement que quand on se douche, quand on prend une douche, on douche des poussières d'étoiles.
D'accord.
Donc strictement, on peut dire, nous sommes des poussières d'étoiles. S'il n'y avait pas eu les étoiles bien avant nous, nous ne serions pas là, puisque pour faire un être humain, il faut des atomes.
écoutait Chon et c'était Dust. Et je voulais revenir sur cet appel qui est fait par les musiciens ariégeois et pour vous rappeler l'adresse sur laquelle on est invité à poser nos propositions de chansons. C'est chanter@framaliste.org et c'est chanter, C-H-A-N-T-E-Z. Framaliste, c'est framaliste.org, chanter@framaliste.org. Voilà, rendez-vous au marché qui viennent. Avec plaisir. Et on va écouter une petite chronique botanique, cette fois-ci, qui traite des parasites, d'après ce que j'ai compris.
Bonjour tout le monde, c'est Hibou pour la chronique botanique. Aujourd'hui, en temps de pluie, je vais vous parler de savoir un petit peu où faire ses cueillettes, comment faire ses cueillettes, éviter le plus possible de prendre de risques. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la maladie qui est transmise par le renard. On va essayer de préciser un petit peu exactement ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de légendes autour de cette maladie. Déjà, elle s'appelle l'échinococcose alvéolaire. Cette maladie, contrairement à ce que l'on pense beaucoup, elle n'est pas transmise par l'urine du renard, mais par ses crottes. Donc déjà, si on prend ça en compte, on voit que l'étage de végétation où il faut éviter de cueillir est beaucoup plus bas, parce qu'un renard qui fait ses crottes n'atteint pas la même hauteur qu'un renard qui urine, surtout jambes levées, pour marquer son territoire. Donc déjà, on peut éviter, on sait un peu plus cibler où on va faire ses cueillettes. Il faut savoir que il n'y a pas de risque zéro quand on fait de la cueillette. On ne sait jamais si un renard ou un animal qui transmet cette maladie est passé par ici et aurait fait une de ses crottes. Mais il n'y a pas plus de risque à cueillir quelque chose dans la forêt que de manger une salade qui viendrait d'un jardin, chez un maraîcher ou autre. Parce que les jardins maraîchers ne sont pas entourés de barrières. Ils peuvent être fréquentés par des renards parce que des fois il y a des fruitiers, ça peut les attirer, ce genre de choses. Des micro-mammifères qui seraient là et du coup ça leur fait des proies, donc qui peuvent être autant présents que dans la forêt. Et du coup, voilà, il n'y a pas plus de risque à manger une salade que de l'ail des ours, par exemple. Alors, sachez quand même que l'échinococcose, quoi qu'il arrive, à la cuisson, ce petit micro-organisme meurt. Donc, il n'y a pas de risque quand vous faites cuire vos aliments. Il y a des plantes qu'on mange quand même crues. Alors, pour ça, déjà, bien les laver. Ça, c'est quand même important. Sachez aussi qu'une récolte faite après des jours de pluie, comme aujourd'hui, sera nettoyée. L'eau de pluie nettoie à peu près 95%, si ce n'est plus, des parasites présents sur les plantes. Donc, il y a déjà un beau travail de fait, plutôt que si ça fait 15 jours qu'il n'a pas plu et que vous allez faire vos cueillettes. Donc, vous pouvez prendre en considération un petit peu la météo. Alors, attention, parce que pour certaines cueillettes, il est dommage de récolter ces plantes si elles sont mouillées, parce que au séchage, elles peuvent moisir. On a des plantes qui reprennent très vite l'humidité. Je pense à des fleurs, en général, qui sont très fragiles au séchage. Mais aussi, si vous voulez faire certaines préparations, comme le fameux pesto d'ail des ours. Et souvent, on me dit « Ah, mais moi, mon pesto d'ail des ours, il a tourné, il pue, etc. » C'est parce que vous avez fait du pesto avec de l'ail des ours humide, que ce soit parce que vous l'avez récolté après la pluie ou que vous l'ayez lavé. Chose qu'on fait très souvent, très régulièrement. L'ail des ours, on le lave. Mais l'ail des ours est très difficile à sécher. Et la moindre présence d'eau dans votre pesto va fermenter dans l'huile d'olive et faire que ça pourrit. Alors que si vous faites un pesto avec de l'ail des ours, sec, vous allez voir que s'il est bien couvert d'huile, votre pesto va pouvoir durer longtemps. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose pour l'échinococcose alvéolaire. Je précise, c'est une maladie qui attaque le foie, qui met vraiment plusieurs années à se développer. Donc, vous pouvez, 10 ans après la contamination, développer une maladie du foie Et on va peut-être vous faire des recherches sur des hépatites, une cirrhose ou des choses comme ça. On ne fait pas systématiquement la recherche pour l'échinococcose alvéolaire. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il faut préciser, il est possible que j'ai contracté cette maladie, je mangeais des plantes sauvages, enfin bref. Voilà. Sachez, ayez ça à l'esprit quand même, on ne sait jamais. Bien que j'ai très peu entendu de personnes qui sont atteintes de cette maladie, on fait quand même attention. La carte de répartition n'est pas sur toute la France avec la maladie du renard. Et vous pouvez aussi aller faire vos cueillettes munies d'un petit spray où dedans vous aurez mis de l'alcool à 90, même de l'alcool camphré hein, de pharmacie, c'est pas grave, c'est pas pour la boire. Et avec de l'huile essentielle. Alors l'huile essentielle qu'on a la plus puissante qui existe, c'est l'origan. Très dangereuse en ingestion d'ailleurs, mais pour désinfecter, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'origan dans ce mélange alcoolique dilué avec de l'eau, et vous pouvez faire un petit spray, comme le petit spray pour arroser les plantes, là, sur vos cueillettes. Sachez aussi qu'il y a un autre parasite qui peut être présent, c'est la douve du foie, qui va se retrouver... surtout dans les prairies pâturées parce que ça vient des animaux des herbivores domestiques surtout les moutons et si vous faites des récoltes de plantes dans une prairie qui vient d'être pâturée, vous voyez qu'il y a des bouses, des crottes de moutons fraîches, etc. C'est pas l'endroit pour faire ces récoltes et c'est dommage parce que certaines plantes poussent dans ces prairies qui sont pâturées. Je pense à la grande berce, à la petite pimprenelle, des choses comme ça. Donc voilà, bien attention avec cette maladie aussi. Préférez une prairie qui n'a pas été pâturée ou qui a été pâturée et qui a eu des pluies et qui n'est plus pâturée de plus. Voilà. Ça c'est pour les parasites. Il faut savoir aussi que regardez bien où vous cueillez vos plantes. Le bord de route, les plantes sont sûrement contaminées par les gaz d'échappement, etc. Dans les prairies aussi pâturées, si vous avez des zones avec... où les animaux vont pour pisser en bas d'une prairie, ils se réunissent bien souvent, les plantes elles vont être très chargées en pollution organique, des nitrates, etc. Je pense aux orties hein, qui adorent pousser par exemple dans des endroits où il y a une grosse présence d'urine, etc. Donc voilà, faites bien attention, vous récoltez vos plantes. Le jardin offre, si vous ne traitez pas votre jardin, offre un super espace pour faire ses cueillettes. Et la forêt, etc. Enfin voilà, il reste quand même plein d'espace. Après, c'est un peu aussi à vous de juger de là où vous pouvez vous permettre de faire vos cueillettes. Voilà, je pense avoir survolé un peu le sujet, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus là-dessus, mais là vous avez déjà de quoi faire vos cueillettes assez sereinement et puis à bientôt pour d'autres secrets de plantes.
Merci Bou.
Merci.
Merci.
Et on se revoit demain, il y avait une annonce à faire.
Demain c'est diffusion.
C'est Pandemos, la radio Flipos. Des Flipos. Ouais. On vous la conseille vivement, ça fait du bien.
Et vendredi, c'est une émission sur, en gros, l'Espagne en 36.
Salut.
Allez, au revoir.
Ciao,
ciao. Salut.
thinks about a little bitty baby girl and a baby boy. Man makes them happy, 'cause a man makes them toy.